L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Composée de la musique électronique instrumentale au cœur même d'une composition musicale pour instruments acoustiques, porte les créateurs de sonorités synthétiques dans une recherche conjointe de formes et d'alliages de timbres. Depuis cette conjonction forme-timbre, on peut toujours se demander comment la forme musicale répond à la recherche des alliages de couleurs et, de manière complètement simultanée, comment les 10 alliages répondent aux idées formelles avec lesquelles les sculpteurs de son les abordent, qu'ils aient un instrument acoustique en main ou bien des instruments à électricité à portée de touche. Au cours de ce métaclassique allié, nous irons à la rencontre du clarinettiste Jean-François Charles qui entre en collaboration électronique avec des musiciens acoustiques tels que le sétariste Ramin Rochandel. Dans le dernier tiers de l'émission, nous rentrerons dans l'atelier du compositeur Olivier Delevingue qui co-compose pour synthétiseur modulaire des partitions en alliage avec Benoît Menute qui écrit à la main des fantaisies. Fantaisie qui nous donneront l'occasion d'entendre Lucille Boulanger à la viole et François Lazarevitch jouer différentes flûtes. Mais pour commencer, nous allons à la rencontre du pianiste, compositeur, improvisateur Patrick Astrid Desfossés, dont voici les fruits de la collaboration avec Anne-Gabrielle de Becker. Patrick Astrid Desfossés, vous êtes pianiste, mais vous ne vous satisfaisez pas complètement du seul piano, puisque vous adjoignez les sons d'Anne-Gabrielle de Becker. Comment s'est déjà nouée cette collaboration ?
Elle s'est nouée par des principes de recherche que nous avons développés indépendamment l'un de l'autre. À la fois Anne-Gabrielle était très portée sur la recherche improvisationnelle avec le matériau électronique, électroacoustique, d'ailleurs plus électroacoustique qu'électronique. Ça a toujours été son cheval de bataille de construire des architectures sur l'instant. Voilà, avoir vraiment un rapport improvisationnel fort avec le matériau qu'elle entend venir d'autres musiciens, pas spécialement et uniquement de piano, c'est-à-dire une interactivité d'improvisation avec le matériau électroacoustique qu'elle fabrique elle-même et en réponse avec ce qui est autour d'elle, aussi bien des instruments avant, piano, quel que soit le... Moi, je viens du monde classique. Le monde classique m'a ouvert, bien évidemment, avec le monde contemporain, les portes aux timbres, les portes aux expériences sonores. Et donc, l'électroacoustisme concret émanant du piano s'est rencontré tout à fait, on va dire favorablement, avec les matériaux improvisés, de Anne-Gabrielle de Becker.
Parce que quand on vous entend donc aborder les Chagrin's Corner de Debussy, on peut se dire, tiens, voilà un pianiste qui veut déborder de Debussy, mais on a l'impression que l'interface par l'électroacoustique vient faire un pont qui, en quelque sorte, vous aide à complètement changer de rive.
Alors, la rive, elle vient aussi, l'autre rive vient aussi que le parcours de Anne Gabriel est architectural. En fait, c'est une docteure en architecture et qui a exercé longtemps dans le domaine de l'architecture. Donc, elle a une pensée volumique des choses. Moi, de mon côté, les timbres sont importants parce que c'est quoi ? Souvent, on exprime le chromatisme et la chromie. Et cette relation entre l'énergie de l'œuvre picturale, par exemple, de ses couleurs, de ses vibrations, et le chromatisme qui est aussi, on va dire, une vibration dans l'espace. Donc, entre les deux, déjà fondamentalement, le rapport que Anne Gabriel entretient avec l'espace et la vibration chromique, et moi, de l'autre côté, la dimension du rayonnement chromatique. Donc, on s'est retrouvés. Pour la petite histoire, parallèlement au conservatoire que j'ai fait aussi les Beaux-Arts. Donc, on s'est retrouvés sur un terrain des couleurs, un terrain des formes, un terrain non pas essentiellement de la note, mais on s'est retrouvé sur des dynamiques autres. Donc l'autre rive, ça a été celle-là, c'est se dire mais en architecture, ce sont les mêmes vibrations que dans le monde de la musique, mais le monde timbrique de la musique, pas forcément. Et à un moment donné, on s'est rejoint, on a fait des expériences, mais complètement improvisées, complètement ouvertes. C'est d'ailleurs le cas et le propos de l'album Un merveilleux piano, où vraiment, à contrario de Contrepoint, Un merveilleux piano, ça a été on, on enregistre, 5 heures plus tard, off, on arrête.
Et après, on garde à la réécoute
oui,
ce qui nous plaît. Quoi.
Mais bien sûr, on ne peut pas être non plus dans les instants magiques tout le temps, mais on aime faire ça aussi, cette autre rive de proposer, au point de vue perceptuel, hein, bien évidemment, d'autres mobilités.
C'est-à-dire que cette rencontre et recherche partagée d'une couleur commune, quoique hybride, est aussi une déviation stylistique à l'intérieur de Debussy. C'est pour ça que je disais que ça aide au passage, c'est-à-dire ça vous aide à sortir de Debussy tout en restant depuis Debussy.
Ben oui, mais il faut savoir aussi que les Debussy, ils sont nés et ont pratiqué à l'intérieur d'une époque où il y avait vraiment des révolutions de lutherie. Combien y avait-il sur la place parisienne de luthiers qui expérimentaient ? Il n'y avait pas uniquement des pianos à 88 touches. Il y avait des pianos à 99, des pianos à plus courts. Il y avait même des pianos verticaux qu'on mettait dans les salons parisiens, les Pleyel, le Muro. J'ai toujours été fasciné par le répertoire de Debussy et j'ai toujours été convaincu que, d'ailleurs c'est une problématique de tous les compositeurs, à un moment donné il faut terminer la composition. Mais les fenêtres ne sont pas encore totalement fermées. Il y a peut-être une partition qui est écrite, certes, mais il y a pas mal de fenêtres à ouvrir. Donc les premières, dans Debussy, il m'a toujours semblé qu'il y avait des fenêtres improvisationnelles qui étaient possibles. Étant aujourd'hui plus improvisateur que interprète stricto sensu, j'ai fait appel, on s'est rencontrés, on a fait une résidence de préparation avec mon collègue Jérémy Favreau, qui est un pianiste français de Corrèze, qui s'est installé de façon permanente à Los Angeles. Et on a fait un travail de répartition de rôle entre le texte stricto sensu et des plages d'ouverture improvisationnelle. Un peu pour signifier deux peintres que j'aime bien de cette époque, Magritte, et ces fameuses fenêtres où on voit effectivement le oui, on va dire, d'une fenêtre et un autre paysage derrière. Il y a des superpositions dans les fenêtres ouvertes. Et on a aussi chez Paul Delvaux, autre peintre de cette époque belge, on a aussi ces fenêtres qui s'ouvrent vers autre chose. Et en fait, chez Debussy, ça m'a paru évident, d'une part parce que la modalité qu'il permet, Debussy, dans certaines parties des compositions, ce sont des fenêtres à... Et le deuxième rapport sur lequel nous avons travaillé, c'est l'ouverture spectrale grâce au piano de Stephen.
Et alors, des fois, il y a certaines plages où j'ai quasi le sentiment d'une indifférence stylistique l'un à l'autre entre vous et Anne-Gabrielle de Becker. À quoi ça tient ? C'est que vous faites chacun votre sauce dans votre coin et puis vous voyez bien comment ça peut s'accorder chez l'auditeur, ou bien au fond, il y a quand même une communauté, sauf qu'elle n'est pas forcément si apparente.
Alors, ça dépend du contexte, dirais-je. Dans certains cas, c'est Anne-Gabrielle qui m'envoie des informations sonores. Et je réagis par rapport à cette arrivée. Cette arrivée surprenante, ou cette arrivée douce, bref, tous les cas de figure.
Et là, vous enregistrez déjà ce que vous improvisez à l'écoute de ce qu'elle vous envoie, ou bien c'est répété au parallèle?
Ah non, 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 il n'y a pas de répétition.
D'accord.
J'y reviendrai sur ce petit point de détail. Donc, chez Stephen Polello, lorsque nous avons enregistré ces deux albums, on a pris le chemin inverse, c'est-à-dire que c'est moi qui proposais.
D'accord.
Et c'est elle qui est en réponse tel ou tel matériau, diaphane, aérien, plus nerveux, etc. Mais ça suppose que les deux musiciens que nous sommes, on a préparé quand même en amont, en ce qui concerne Anne-Gabrielle, un corpus de données sonores, bien évidemment. Elle a préparé sa banque de sons, elle a son matériau, au même titre qu'il y a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
Oui, elle a déjà choisi une palette.
Voilà, elle a sa palette de couleurs. Vraiment, on en revient à la chromie.
Oui.
Elle a sa palette de couleurs et on engage un dialogue. Quelquefois, c'est moi qui envoie, quelquefois, c'est elle qui envoie. Et il y a des allers-retours par rapport à ça. Il y a un phénomène aussi supplémentaire, c'est que les pianos, et principalement l'opus 102 de Stephen Polello, c'est déjà un matériau concret, pour reprendre un terme d'Helmut Lachenmann par rapport à la musique concrète instrumentale. Le piano, c'est déjà un facteur de rayonnement particulier, puisque bon, il y a 102 touches, ça augmente le spectre, 3 mètres et des poussières, c'est un déploiement spectral très, très fort, un rayonnement acoustique très fort. Du coup, il y a une relation quasiment instantanée d'architecture. Si j'entends, par exemple, une matière diaphane arriver, cache comme solution le contraste, épouser la matière, me fondre dans la matière, laisser passer la matière, me taire, jouer. Donc en fait, ce sont des synergies instantanées. Et en ce qui me concerne, l'improvisation de réponse ou de proposition, elle ne s'improvise pas. L'improvisateur est quelqu'un qui travaille son improvisation. Ça, c'est pour ça que je voulais revenir, je vous ai dit tout à l'heure, revenir à ça. L'improvisation, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare, ça se conduit, etc.
Thank you.
Alors vous dites, il n'y a pas de pulsation précisément, comment vous répartissez la mesure finalement, qui conduit l'idée de phrase entre vous deux?
Dans ce rapport, il n'y a pas de barre de mesure.
Oui, ça on a bien compris, mais okay. Ça n'empêche
qu'il n'y a pas de temps non plus.
Il y a quand même des séquences.
Alors, là on en revient presque à la musique de la Renaissance. Je fais un flashback. Dans les écritures de musique de Renaissance, de musique baroque, etc., musique ancienne, il y a des phrases qui sont notées sur la partition, barre de mesure, phrase. En fait, on est dans le pneumatique qui est arrivé sur un moment où on mettait une barre de mesure pour signifier que la phrase était terminée. Et après, on a mesuré, bien évidemment, parce qu'il y a eu orchestre, etc. Et avec la musique contemporaine, la barre de mesure a de nouveau commencé à disparaître pour laisser place plutôt à la phrase. Et là, on sent très bien, sans qu'il y ait de barre de mesure, que la phrase se fait, un peu vraiment comme des neumes, se fait à un point climatique, se défait, s'estompe, voilà.
Est-ce que le fait de jouer sur ce piano avec 102 touches et donc avec cet enrichissement harmonique, parce que c'est lui donne envie de titiller ses possibilités harmoniques, est-ce que ça présente pas alors un risque de s'écouter jouer?
Ah, c'est une très très bonne question. Mais de toute façon, il y a de fait une partie de soi qui s'écoute, une partie de soi qui propose. Mais dans la question, une partie de soi qui s'écoute, ça voudrait dire peut-être un enfermement un peu sur soi. Non, quand ça arrive, effectivement, il y a l'écoute, mais je dirais plutôt qu'il y a un entendement. La différence entre écouter et entendre. Il y a une atmosphère qui s'installe. On ouïe les éléments. Je les entends. Si je les écoutais, ces matériaux-là, je serais distrait. Donc je les entends. Ma distraction n'existe pas. Ma concentration fait que j'écoute en construisant. Presque un aller-retour entre les deux. L'avantage que je peux avoir, c'est en tant que compositeur, j'ai des réflexes aussi directement d'orchestration du son que j'entends, qui arrive. Pour moi, c'est un matériau qui est déjà orchestré. Donc, le matériau pianistique que je vais avoir en réponse va être déjà aussi une orchestration qui va s'imprimer sur ce qui est envoyé.
Alors, c'est là que se pose la question de l'alliage, c'est-à-dire de produire un matériau qui procède du mélange avec les sons électroacoustiques. Et comment ce mélange participe-t-il de la forme d'arrivée, puisque vous êtes dans la conscience de la production d'une forme, du fait d'être un improvisateur qui compose?
Alors, à vrai dire, c'est toujours en conséquence dans ces cas-là. Quand vous faites de la composition en différé, vous êtes tranquillement chez vous, vous composez, etc. Donc là, vous avez conscience de la forme finale. Si une composition fait 15 minutes, vous avez devant vous le tableau compositionnel de 15 minutes. Mais là, en fait, vous avez toujours une petite longueur d'avance, mais quant à la forme finale, elle est encore inconnue lorsqu'elle se fait. Thank you.
quand on écoute ce Bayat Ispahan, Jean-François Charles, vous intervenez sur ce que Ramin Rochandel joue au Sétar, ou bien est-ce que c'est lui qui intervient sur ce que vous tramez électroniquement ? Comment est-ce que vous pensez le dessus, le dessous ?
Alors, en effet, lorsqu'on joue avec Ramin, lui, au Sétar, il s'inscrit dans une pratique de musique classique persane, ouais. Musique classique perse. Et donc, il a cette formation qui lui permet de jouer des formes classiques. Quand on joue ensemble, il part d'idées de musique classique perse.
Ouais.
Et il utilise des modes d'Astga, des modes donc... qui sont propres à cette musique.
Ça veut dire qu'il se déplace de sa pratique classique avant même que vous n'ayez émis un son électronique.
Alors, il peut commencer hors de la pratique classique ou il peut commencer complètement comme une pièce classique. Et moi, j'utilise son son. Donc, c'est vrai qu'une chose importante dans cet album, par exemple, l'album Jamshid Jam,
ouais.
Tous les sons que je produis sont produits à partir du son en direct du Sétar.
On pourrait dire qu'en soi, c'est que du traitement.
Donc, c'est que du traitement, c'est que du sampling, si vous voulez. J'enregistre ce qu'il fait et je retravaille la matière en direct.
Et pourtant, on a le sentiment que vous reprenez le pouvoir sur la métrique générale.
Alors, c'est vrai que je peux aussi jouer plusieurs voix ou plusieurs textures ou plusieurs couches différentes. Donc, parfois, Ramin va volontairement me laisser la place parce qu'il a envie.
Ouais.
Et puis donc, oui, l'idée vraiment, c'est qu'on réagit l'un à l'autre sans arrêt.
Mais ce que vous faites, vous le tirez d'un répertoire d'action électronique qui est prédéfini vous aussi ou bien qui dépend beaucoup de ce qu'il donne ?
Alors, les gestes sont liés très fortement à cet instrument que j'ai construit au fil des ans. Donc c'est vrai que c'est un instrument que j'appelle Spectral DJ, qui est vraiment une partie logicielle que j'ai développée au fil des ans, et une partie matérielle qui est un contrôleur DJ.
Ouais.
Donc un contrôleur DJ, qu'est-ce que c'est ? Un contrôleur MIDI, donc un contrôleur qui va me permettre de parler à l'ordinateur, et qui est modélisé sur cet instrument très important du XXe siècle, qui est le setup de DJ, avec deux platines tourne-disque et puis une table de mixage au milieu. Et cet instrument de double platine, il est incroyablement tactile. Et c'est pour ça qu'il existe encore, alors qu'il a été inventé en 1970 à New York. Et il existe encore parce qu'on peut toucher la musique, on peut faire tourner une platine et se resituer dans le son, dans la musique, aller dans le passé, aller dans le futur, changer la vitesse de lecture. Voilà, donc moi j'ai utilisé cette interface qui est une interface commerciale.
Plutôt historique en quelque
sorte. Voilà, historique, mais donc cette interface matérielle que j'ai achetée, n'est-ce pas ? Et puis elle est connectée à l'ordinateur et le logiciel... Un DJ, il utilise un logiciel commercial avec des pistes préenregistrées, il a des fichiers sons. Voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé un équivalent d'un logiciel commercial, mais qui est dédié à la musique live.
De l'instrument que joue Ramin Rochandel, on dit sétar à une lettre près, c'est le sitar, mais la petite lettre change tout parce que c'est pas du tout le même instrument en fait.
Exactement, donc c'est vrai que personnellement en France j'étais exposé beaucoup au sitar indien, notamment parce que j'ai écouté des musiciens de jazz qui jouaient avec Ravi Shankar et des choses comme ça, donc ça, je connaissais le sitar, musique indienne. Sitar, c'est l'étymologie, si je ne me trompe pas, c'est environ 30 pour si et corde pour tar. Eh bien, le sitar, c'est cet instrument de musique classique perse qui a en fait trois cordes. C'est trois. Guitare, c'est cordes.
D'accord.
Et puis en fait, avec l'évolution de l'instrument, maintenant il a quatre cordes. Mais c'est vraiment
même s'il a gardé le
classique.
Nom de trois cordes. Ouais. Alors on lit dans la page Bandcamp où vous avez publié ce disque en 2022 une phrase sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. Dans Jamshid Jam, les artistes assument l'impossibilité d'un tel dialogue. Dialogue donc entre ce que vous appelez la poussière sonore d'un pays, à savoir la tradition ancestrale qui passe à travers cet instrument qu'est le sitar. Et donc vous dites que vous assumez l'impossibilité d'un tel dialogue en le poussant à son extrême, où la nature même de la logique et du langage se dissout.
Voilà, alors on a la grande chance d'avoir en effet un autre musicien classique qui a écrit ce petit texte en
oui.
réaction à notre musique.
Qui s'appelle Nima Janmo Hammadi.
Exactement, qui est un magnifique interprète de musique classique perse et aussi un compositeur du 21e siècle de musique acoustique et électronique. Et oui, ce que je trouve fascinant, c'est que lui, avec son écoute et sa culture qui connaît la musique classique, il va percevoir les déconstructions des formes classiques et la façon dont Ramin va jouer avec une forme classique et la façon dont moi je vais apporter une autre couche. Et en quelque sorte, c'est comme si on décomposait une musique classique et qu'on la recompose multidimensionnel. Je pense que c'est un petit peu ça ce qui se passe quand on joue ensemble.
Donc c'est en ça que ça en fait de la musique spectrale, c'est-à-dire que vous venez vous immiscer dans le spectre du sitar davantage que vous ne jouez à partir de son spectre en fait.
Alors ça peut arriver ou ça peut arriver donc. C'est vrai que le mot spectral,
il est chargé.
Il a plusieurs significations, hein,
oui.
Puisque moi j'ai découvert donc la musique spectrale de l'école de Tristan Murailles et
Gérard Glizenko,
bien sûr, et etc. Mais d'un point de vue physique, si on veut, le spectre d'un son, c'est le son, c'est le son regardé au microscope, si on veut, donc. On peut aussi considérer l'aspect spectral comme ouvrir le son, peut-être le transformer et le recomposer sans nécessairement une attache directe à d'autres écoles de composition. Quelquefois, je vais simplement rejouer un écho d'une phrase musicale, mais simplement ralentie, deux fois plus lente. Donc on va l'entendre à l'octave inférieure, comme on pouvait faire avec une bande en 1955.
Pourquoi 55?
Non, comme Pierre Schaeffer pouvait le faire au début
de la musique
manipulation électronique sur bande. Stockhausen.
Alors Jean-François Charles, vous êtes aussi clarinettiste, peut-être faudrait-il dire d'abord clarinettiste, et vous faites, avant la collaboration avec Ramin Rochandel, un album qui s'appelle Electro-Clarinette, qui est une sorte d'auto-collaboration, vous collaborez avec vous-même, c'est-à-dire que vous jouez de la clarinette en même temps que vous faites... vous la traitez électroniquement et comment est-ce que vous négociez ce qui vient avant, ce qui vient après dans ces deux gestes conjoints?
Donc en effet, je suis clarinettiste, j'ai étudié au conservatoire à Strasbourg avec Armand Angster à un moment en musique électronique et acoustique se pose la question de l'interactivité. En tout cas, moi j'ai toujours été intéressé par la réactivité de l'électronique.
Comme s'il fallait un stimulant qui soit hors circuit.
En direct, voilà.
Ouais.
Et ça, ça m'a toujours motivé. Et donc, l'électroclarinette, c'était un peu un rêve de jalousie, si on veut, par rapport à la guitare électrique. Pourquoi la guitare électrique? Mais c'est un des instruments du XXe siècle qui est fascinant parce que lorsqu'un guitariste électrique joue de la guitare, avec des effets, avec des pédales, avec du traitement du son. En général, On écoute et on entend de la musique. On n'entend pas un instrument transformé par électronique, etc. Oui. etc. On n'entend pas la technique, on entend la musique. Donc ça, c'était un peu ce rêve. Donc électroclarinette, c'est vrai que ma recherche, elle composait des pièces où le clarinettiste est aussi l'interprète de l'électronique qui s'applique.
C'est-à-dire que machiner les sons demande de trouver des chemins pour démachiner l'écoute.
Démachiner l'écoute. Oui, dans un certain sens. J'ai jamais pensé comme ça, mais. Donc, en effet, dans l'électroclarinette, sur certaines pièces, je vais avoir une ou deux pédales qui vont être jouées par l'interprète. Pour transformer le timbre, ou pour geler un son, ou pour geler plusieurs sons les uns après les autres et transformer, petit à petit construire un accord. Des processus assez simples en fait, mais que j'ai simplement donné à jouer à l'interprète de la clarinette en même temps que jouer de la clarinette.
Parce qu'il y a une tentation très, très forte. En l'occurrence, il y a une plage par instrument, c'est-à-dire vous pratiquez aussi bien la clarinette si bémol, la classique, que la clarinette en la, que le corde bassée, que la contrebasse. Et donc chaque plage a une clarinette, chaque plage aussi un compositeur de référence, Debussy, Weber, parce qu'il a composé pour clarinette, j'imagine, Olivier Messiaen, Igor Stravinsky, et ces références pré-électroniques, disons, elles vous servent aussi à désaimanter la pensée du lien de la machine, c'est ça ?
Alors, oui, parfois, une pièce va être inspirée parce que je suis allé à ce concert et j'ai entendu... pour la première fois en direct la sonate pour violoncelle et piano de Debussy et je me suis dit mais c'est incroyable, cette pièce elle est extrêmement moderne et j'étais complètement surpris et donc une des pièces en l'occurrence pour clarinette, contrebasse et électronique, voilà, j'ai écrit vraiment en réaction à Debussy. En fait c'est de voir des choses incroyables dans certains compositeurs ou Messiaen, certaines pièces d'orgue sont absolument incroyables au niveau de la forme que j'ai même de la peine à comprendre. Est-ce que ça s'explique? Mais voilà, où ça va générer une inspiration pour écrire la partie écrite, peut-être.
Et alors, ça veut dire que dans les projets que vous avez, vous nourrissez aussi des fantasmes d'alliage entre électronique et instruments acoustiques de nouvelle nature? Ou alors au contraire, vous avez des fantasmes sonores que vous réalisez par des moyens hybrides de fait, et ça reste quand même la pensée du son qui commande les envies.
Ouais, alors cette question me fait penser à qu'est-ce que la musique concrète ? Parce que parfois en enseignant, qu'est-ce que la musique concrète ? Certaines personnes, elles l'expliquent en disant que c'est un enregistrement du son, et c'est ce qui rend de son concret, un enregistrement de son concret par exemple. Mais une autre définition, à mon avis plus importante de la musique concrète, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la musique où le compositeur travaille la matière concrète, travaille le son de façon concrète, travaille le son sur la bande. Et donc le compositeur travaille le son, et il ne passe pas par l'intermédiaire d'un interprète, il va travailler le son. Ce que j'essaye donc, lorsque je compose pour électronique et acoustique, c'est de travailler l'électronique de façon concrète, même si à la fin ça va être un traitement en général, en direct, qui m'intéresse le plus dans tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que le travail, la recherche de quel effet, de quel traitement, de quel son, vraiment, est faite avec le son. Et c'est ainsi que je vais choisir tel traitement ou tel son électronique en correspondance avec ce qui est écrit dans la partie acoustique.
Parce que Marc Battier a publié récemment un livre qui s'appelle Esthétique du son artificiel, qui refait l'histoire des musiques électroniques, disons. Et ce mot artificiel, finalement, il pose problème pour vous. Parce que vous seriez plutôt à essayer de creuser ce qu'il peut avoir de encore plus profondément naturel.
Ouais. Oui, une pirouette pourrait aussi être de dire, mais le piano, c'est vraiment un instrument extrêmement artificiel.
Ça, c'est le moins qu'on puisse
qu'est-ce
dire.
Qu'est-ce qu'il y a de plus artificiel qu'un piano, vous voyez ? Donc c'est compliqué, c'est une question à multiples...
Ah oui, que l'électronique se réserve le mot artificiel, c'est vrai que c'est cocasse, ouais.
Parce que, oui, l'histoire de la lutherie est complètement... jalonné d'innovations techniques qui inspirent les compositeurs. Bon, étant clarinettiste, il faut que je cite Mozart. Voilà, un jour il rencontre cet incroyable musicien qui a ce nouvel instrument, une clarinette, et il se dit il faut que je compose pour lui. Et on a un concerto pour clarinette. C'était dû à l'invention de l'instrument.
C'est pas très radiophonique d'essayer de décrire ce qu'il y a autour de nous, mais il y a une multitude d'instruments de lutherie électronique extrêmement variés. Et l'idée, c'est à partir de ces instruments qui n'ont pas de son ni de timbre très défini, c'est de voir comment on peut les combiner les uns et les autres pour justement créer ce timbre. Et l'idée au départ était d'avoir la viole, bien sûr, et donc autour de ça, de voir comment on pouvait compléter, à faire de la viole augmentée.
C'est ça, avec des instruments qui sont à 5 siècles d'écart. Parce qu'il y a ça aussi, il y a cet angle-là. La viole, c'est quoi ? C'est le début 16e, je pense, ou même fin 15e. Et ça qui date des années 50.
Ça, oui, ça a démarré au début des années 50, les tout premiers oscillateurs. Après, ça a eu un âge d'or dans les années 70. C'est ensuite un peu retombé avec l'arrivée de tous les systèmes numériques. Et il y a depuis une bonne dizaine d'années un regain d'intérêt pour ce principe de synthétiseur modulaire où on combine son propre instrument et on ne l'a pas dans un clavier tout intégré. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en fait c'est une technologie ancienne mais remise au goût du jour avec une myriade, pléthore de petits luthiers qui, sur des schémas que tout le monde connaît, essayent de faire des modules avec une particularité.
Minutes. Jusque-là, vous n'aviez jamais approché une machine ?
Quand je retirais des sous, mais jamais pour faire de la musique en tout cas.
Ouais. Pourquoi ? Vous l'avez analysé ?
Ah oui, parce que j'avais une vision assez obtuse des choses. Souvent, c'est plus facile que de se questionner soi-même. Mmh. Je me disais que tout ce qui est donné par l'électricité n'était pas suffisamment humain et que ça ne m'intéressait pas. J'aimais bien quand l'humain avait une action directe sur une corde qui vibre, sur une trompette qui fonctionne avec la vibration des lèvres, sur tout ça. Et que j'avais même une forme de maxime personnelle un petit peu idiote qui était « je veux qu'on puisse jouer même quand il y a une panne de courant ».
Donc ça, c'est une sorte de dérivé de l'amour de l'artisanat.
Oui, c'est une forme de posture de base qui me permettait de ne pas me questionner et de ne pas aller voir un peu ce qui se passait de l'autre côté du miroir.
Alors pour vous, oui, c'est ça, c'est l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dont vous ne maîtrisez plus tout, et c'est un petit peu ça aussi qui vous inquiétait peut-être.
Qui n'a pas peur de ce qu'il ne connaît pas.
Ouais. Et un beau jour, vous rencontrez Olivier Delevingue.
J'aime beaucoup ce qu'a dit mon camarade.
Parce que vous y reconnaissez pas du tout,
Benoît,
c'est ça?
Pas du tout. Non, pas du tout. Alors évidemment, sur l'électricité, bon, j'aimerais lui rappeler l'invention de la batterie qui a quand même apporté beaucoup de choses à la possibilité. Lorsqu'on est déconnecté du réseau général, on a quand même possibilité de s'alimenter. Et en plus, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une rencontre.
Oui.
Parce qu'effectivement, sur cette corde qui vibre, ce côté tactile, l'embouchure de la trompette, donc Benoît a découvert le slider. Mmh. Alors le slider, c'est un petit bouton, un potentiomètre, vous voyez, quelque chose qui monte et qui descend. Donc il y a des potentiomètres rotatifs, des potentiomètres linéaires, et il y a ce slider qui fait plus ou moins et qui est sur un appareil. Alors Benoît dit un appareil, et vous avez dit une machine, donc moi je dirais un instrument.
Oui.
Donc un instrument qui s'appelle l'ARP 2600, donc du nom de son inventeur.
Il s'appelait 2600
Non, il s'appelait Alan R, donc ça va être Robert Pirlman, et donc ARP. Et donc il a inventé cet instrument de musique électronique, donc c'est ce synthétiseur à base d'oscillateur, hein, de générateur de courant électrique. D'ailleurs, en fait, tout le monde connaît l'ARP, mais on connaît plus l'ARP 2500, puisque dans Rencontre du troisième type, vous savez, ils sont dans le laboratoire, ils essayent de reproduire les sons émis par cet extraterrestre. Et bien ça, c'est fait avec un ARP 2500 que l'on voit très bien dans le film.
Avec plaisir, et ça c'est très chouette.
Mais le fait que ça produise, j'ai l'impression, par défaut des sons tenus, ça fait quoi? Parce que du coup ça fait comme un bourdon, quoi. Ça commande quelque chose musicalement.
Alors, ça peut, mais pas que, hein. C'est-à-dire que ça peut aussi se changer en temps réel. C'est pas que tenu, on peut avoir des pichenettes, des pids, on peut avoir plein de choses, hein. C'est très riche.
Oui, c'est le principe de base d'un oscillateur. On lui demande d'osciller, d'envoyer une forme d'onde. Donc là, par défaut, le son est tenu. Et ensuite, justement, la modification qu'on va apporter par un deuxième module, hein, parce que on combine, hein, l'analogie, c'est le train électrique. Hein, je mets des rails, ensuite des wagons, j'enchaîne les wagons. Il y a une locomotive qui tire le train, des wagons de voyageurs, des wagons de marchandises, qui va permettre de dire ce qu'on veut en faire. Soit on le laisse auto-osciller en permanence, soit on prend le contrôle, et il y a deux manières de prendre le contrôle. Soit d'une manière très conventionnelle, qui consisterait finalement à raccorder un clavier dessus, tempéré. Soit de dire non, je vais utiliser un autre système pour déclencher les notes. Alors ça devient un petit peu compliqué parce qu'il faut changer la hauteur de l'oscillateur en temps réel pour que ça produise des notes, mais c'est un petit peu ça qu'on cherche, tout en n'étant pas dans l'expérimentation. On ne veut pas faire une musique expérimentale, on veut faire une musique. We'll be right back.
Moi, en fait, quand j'ai compris que l'ARP pouvait être un instrument en fait, où le geste, où l'artisanat du geste était tout aussi précis, voire même parfois plus que certains instruments mécaniques, dans le sens de la mécanique de double échappement d'un piano, par exemple, là, en dehors de l'électricité, de la fée électricité, j'ai été plus que convaincu, parce que je me suis dit, ah oui, donc c'est, entre guillemets, mélangeable, dans mon sens, avec des instruments. Et...
acoustique.
Voilà. Et dès lors, on était parti sur une autre idée poétique tout d'abord. Hein. Voilà, idée dont on ne parlera pas ici pour pas qu'on nous la pique, mais c'était une idée que Olivier a eue.
Qui est d'ailleurs une excellente idée.
C'est une excellente idée.
Vraiment, c'est une très très bonne idée.
Ah non, mais elle est vraiment bien.
Mais vraiment très bien.
D'accord. Elle était de toi d'ailleurs.
Et je pense qu'elle était partagée. Elle était partagée, mais elle était vraiment formidable.
Bah, parlons de celle qu'on peut entendre. Benoît.
Ouais. En fait, on a dû. Enfin, on a dû. C'est comme quand on a envie de faire, donc il m'a convaincu. Et quand on a envie de faire, souvent, le chemin compte plus que le résultat. Et donc, le chemin nous a amené à nous dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mixer? Qu'est-ce qu'on va faire se rencontrer? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, on s'est dit, mais la musique baroque, du moins les instruments, la facture instrumentale baroque. Et on a commencé à penser à certaines personnes.
C'est-à-dire des instrumentistes avec qui vous aviez envie de travailler?
D'abord, des instruments.
D'accord.
Plus que les instrumentistes, hein, si mon souvenir
est
bon.
Oui, parce que c'est exactement cette. La discussion s'est passée de l'anecdote autour de cet élément. Oui. Il n'y a pas rien qui est l'ARP 2600, mais il n'y a pas eu que ça. Donc on est allé plus généralement autour de toute une lutherie électronique. Et là, déjà, c'était un grand pas en avant de dire il y a une lutherie électronique, beaucoup de fabricants, beaucoup d'instruments différents. Et cette lutherie s'insère dans un système global, qui est donc le synthétiseur modulaire, qui consiste à dire, plutôt que d'avoir un instrument fermé qui a des capacités, comme on pourrait l'avoir un piano, on va avoir la possibilité de combiner à l'infini un certain nombre d'éléments et de fabriquer son propre instrument, son propre synthétiseur, avec son propre type d'oscillateur, qui va générer son propre type de son, autant qu'on en veut, les combiner, les mettre dans l'ordre.
Mais à partir de cet état de votre rencontre, un horizon de collaboration aurait pu être que vous, Olivier, vous confiez un de vos instruments à Benoît, et que Benoît se mette à composer pour cet instrument. Or, ce n'est pas ça qui s'est passé. Vous êtes revenus, en quelque sorte, chacun dans votre zone de confort pour essayer de faire alliage des sonorités dont vous aviez chacun la charge.
Et plus ou moins, parce qu'on s'est beaucoup titillé.
Oui.
C'est-à-dire, je pense, je crois même, que d'une certaine manière, j'ai pas écrit pour la viole de gambe dans notre projet comme je l'aurais fait, sans avoir le retour, les suggestions et le regard sonore d'Olivier. Et je pense peut-être aussi l'inverse, par des demandes parfois qui étaient les miennes, des propositions sonores, ou peut-être tu l'as utilisé d'une manière différente. Je sais pas.
Bien sûr, on aurait pu dire, bah, très bien, on va faire une base. Allez, on fait une base électro. Et on met un solo de gueule de gambe. C'est justement ce qu'on n'a pas souhaité faire.
Ce que vous avez fui, même.
Oui, ouais. Fallait vraiment avoir cette interaction, voir comment on pouvait interagir et combiner les deux pour qu'il y ait c'est même plus du mélange. C'est un troisième instrument qui est le résultat de tout ça. Alors c'est un petit peu... Peut-être que non, c'est un peu prétentieux ou très ambitieux de dire ça, mais réellement, c'est ce qu'on a réussi à faire.
timeline, pour moi, est un, pas un problème, est une question, parce que j'avais, comme tu t'en souviens, la hantise qu'on soit uniquement dans de la musique maîtrée et où ce soit la timeline qui soit comme un clic de métronome d'une rigidité extrême et qui induit une musique qui ne puisse pas être au-dessus du temps et, comme disent les gens intelligents, en temps lisse. Voilà. Ça. D'un autre côté, ce temps hors pulsation doit quand même, sur le logiciel ici, être induit par une timeline. Donc on est, les rapports temporels sont aussi intéressants là-dessus. Et on va trouver des points de repère dans la partition, où là, pour le coup, c'est la viole qui induirait en live le clic ou le geste du joueur ou de la joueuse de modulaire.
Parce que j'ai une double question, j'ai l'impression qu'il faut qu'elle reste double, donc je vous les livre les deux questions en même temps. Pourquoi fantaisie ? C'est-à-dire pourquoi le choix de cette forme qui est presque programmatiquement libre et pourquoi est-ce que, et comment plutôt, la recherche d'alliage des couleurs finit par impacter justement la forme, y compris le phrasé ?
Alors, fantaisie, je crois que c'est venu tout à fait naturellement.
Ouais, par Telemann.
Par Telemann, oui.
Ouais, par l'esprit de la liberté qui anime Telemann dans ses suites, ouais. En fait, là. Et aussi, parce que nous, on a fragmenté la grande pièce de 15 à 18 minutes ou 19 minutes parfois, en divers mouvements, mais dans une forme, c'est pas une forme rhapsodique, c'est une forme de fantaisie, en ce sens-là. Donc, c'est directement issu, de l'époque baroque, comme les instruments de facture baroque, en fait.
Oui.
Et la fantaisie et sa liberté, mais aussi sa structure quand même sériée en mouvement.
Qui, entre vous deux, aurait pris l'initiative de la durée des phrases, par exemple ?
Lui ? Normalement, tu aurais dû dire lui aussi, si tu avais vraiment été... si on avait dû répéter cette interview, on aurait dû dire en même temps, d'une seule voix, lui, se dénoncer l'un l'autre. Mais en fait...
Mais en fait, c'est l'allée et venue qui finit par faire la dimension de la phrase ou...
Oui, très probablement.
L'un demande à l'autre de développer, il demande d'ici de réduire ou de développer là. En fait,
Sauf que Benoît, vous avez la main sur la partition qui va ensuite être donnée à l'interprète.
La partition, David, justement, ma grande, pas faiblesse, mais l'extrême lenteur que j'apporte à ce travail, eu égard à la rapidité, à la célérité de ce que Olivier a comme instrument et comme capacité à le faire entendre, c'est que moi, j'écris à la main. Après, il faut qu'on enregistre ou que je lui joue la proposition ou que moi aussi je l'entende et qu'on la teste, qu'on la travaille.
Tu vois, on n'a pas eu cette note-là depuis le début, c'est la seule qui manque. Au bon endroit et aussi la tension de tout le crescendo. Et je pense qu'avec celui-là, c'est l'idéal. Hein.
Oui.
Et selon la taille, c'est une note différente, là ?
Ah ouais, vas-y. Ouais.
Ce numéro de métaclassique s'appelle Allier. On avait, Benoît, évoqué peut-être fusionner à un moment donné.
Ouais.
J'ai beaucoup poussé pour Allier, mais...
Et t'avais raison.
Quelle était la limite entre les deux ?
Alors, je pense que la fusion est un mot valise et que l'alliage...
est un projet.
l'alliage, c'est une autre matière... comme avec des métaux,
oui.
Hein, et c'est aussi dans le travail d'avoir un allié, et donc ou d'être dans un cercle interallié, qui est un très bel endroit d'ailleurs, mais je trouve que c'est aussi intéressant de se dire qu'on a des alliés parce qu'on a peut-être pas le même résultat en tête, mais peu importe le résultat qu'on a en tête, ça sera autre chose, mais autre chose qu'on décide en étant l'allié de l'autre de faire ensemble. En fait, c'est une allégorie de l'alliage métallique et de l'alliage sonore en un alliage amical et artistique, en ce sens.
Et puis pour tout dire, le projet est loin d'être terminé. Donc là, au moment où nous parlons, donc à l'instant I, l'instant T, je ne sais pas ce que c'est, l'instant I.
C'est un instant inversé.
Ah d'accord. Et il y a deux fantaisies sont terminées, sont bouclées. On ne reviendra pas dessus. complètement. On pourra peut-être jusqu'au dernier moment, on va se,
c'est notre
on va
dernier mot,
se permettre peut-être des ajustements. Il va y en avoir d'autres. Et bien sûr, pour la projection dans un spectacle, dans un programme, serait, est-ce que c'est in extenso toutes ces fantaisies, un mélange des fantaisies, une fantaisie qui n'existerait que pour une version spectacle où il y aurait nos différents interprètes en plus. Là, tout est un petit peu ouvert en fonction de ce qui va se présenter.
L'écriture, comme on l'entend là, est plus gravée entre guillemets dans le marbre, mais le marbre, ça peut se repolir, hein, donc il repolit. En fait, c'est une interaction réelle. Il n'y a pas un préalable, je crois, d'un des deux compositeurs qui pose une base plus que l'autre dans ce qu'on a fait depuis le début. Peut-être que je suis un peu plus dirigiste par ma déformation professionnelle classique.
Et... Je le laisse le croire.
Si on avait par exemple l'ensemble intercontemporain avec modulaire, c'est-à-dire avec un modulaire en scène qui se jouait comme ça, bon, après tout ce qu'on aura fait, on aura un peu d'expérience. Le but serait de pouvoir avoir une interactivité où presque il n'y a pas besoin de chef d'orchestre, où on soit vraiment sur de la musique de chambre plus, voilà, et que ça devienne de l'orchestre par l'écartèlement énorme en fait de la musique.